Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Il faut bien, dira-t-on, que les étudiants en médecine s'exercent d'une manière ou d'une autre, qu'ils apprennent les gestes, même si ces gestes ne sont pas très agréables pour les patients. Or, il semble que de longue date, les enseignants et étudiants en gynécologie aient trouvé une solution singulière pour régler ce problème. Martin Vinclair en atteste sur son blog en 2014. En faculté de médecine, en France, il a longtemps été, et il est encore d'usage, que les étudiants apprennent à faire des examens gynécologiques sur des patientes endormies en salle d'opération. Je parle d'interventions non gynécologiques, mais s'il s'agit d'interventions gynécologiques, c'est pareil, car ces patientes n'ont pas été prévenues. En février de cette année, un article de Metro News à ce sujet faisait grand bruit. Il révélait des documents présents sur le site de l'Université de médecine de Lyon-Sud, préconisant d'apprendre aux internes à pratiquer des touchers vaginaux sur des patientes endormies au bloc opératoire. La doyenne de l'UFR de médecine, Carole Burillon, contactée par le site, aurait déclaré « On pourrait effectivement demander à chaque personne, mais j'ai peur qu'à ce moment-là, les patientes refusent ». Ces allégations ont ensuite été fermement démenties par la porte-parole de l'Université Claude Bernard, Lyon 1. Le document cité était ancien et figurait par erreur sur son site. Un tour sur les forums d'étudiants en médecine a plutôt tendance, au contraire, à confirmer ces pratiques. Sur le forum iCarabin, également cité par de nombreux médias, un jeune homme surnommé Lamouche confiait il y a 10 ans de ça avoir fait son premier toucher vaginal sur une patiente sous âgée, c'est-à-dire anesthésie générale, et il commentait « ça ne me choque pas vraiment, on est étudiant, faut bien qu'on apprenne à un moment donné. Je ne vois pas en quoi ça dérange les patients, parce qu'ils ne le savent pas. Et si on découvrait une tumeur maligne, elle serait bien contente, la dame, qu'on lui ait fait le TV en douce. » Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, deux autres actes médicaux sans consentement, bien plus radicaux, racontés par des patients et demain le point de vue des soignants sur la question du consentement médical. Des récits d'Inès Leroux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je venais d'avoir 30 ans. Et je décide de prendre des cours de badminton, j'en rêvais depuis longtemps. Et dès le deuxième cours, alors que je suis en plein match, j'entends un bruit comme un coup de fusil. Je tombe au sol, impossible de me relever. Là, on m'emmène aux urgences, où on me diagnostique une rupture du tendon d'Achille. Le chirurgien m'explique que je vais rester à l'hôpital parce que je serai opérée le lendemain matin. Comme je suis pas très rassurée par les anesthésies générales, je lui demande si l'opération peut se faire par anesthésie locale. Il est d'accord. Le lendemain matin, on m'apprend que finalement je serai opérée par un autre chirurgien que celui que j'ai rencontré. La première chose qui m'inquiète, c'est de savoir si j'aurai bien l'anesthésie locale. Donc je demande et on me dit de me détendre, sinon ça sera l'anesthésie générale. J'essaie de m'expliquer, de dire que si j'ai l'air angoissé, c'est parce qu'en fait, j'aimerais avoir la certitude que j'aurai une anesthésie locale. Et là, alors que je suis encore en train de parler, on me met un masque, on me demande de respirer et je m'endors. Je me rappelle parfois de cet épisode hospitalier avec stupeur. J'ai eu l'impression d'être traitée comme de la matière, de la pure matière, sans capacité de jugement. J'ai l'impression que on a agi sans mon consentement. Et quelques années plus tard, je rencontre Cécile et Neouza, qui elles aussi ont vécu cela, chacune à sa manière.
J'avais une grosseur au ventre. Il fallait aller voir ce que c'était. Donc je m'étais renseignée, on m'avait donné le nom d'un médecin qui avait excellente réputation. J'ai pris contact avec ce docteur, il a accepté de me recevoir au mois de juillet, juste avant de partir en vacances. Il m'a dit, écoutez, on va faire une thyroïdoscopie. Donc en fait, ils n'ouvrent pas totalement, ils font des incisions au niveau de l'abdomen, du nombril, etc., pour pouvoir passer des caméras et aller regarder ce que c'est. Il m'avait dit très précisément, si votre vie est en danger, si vous avez un cancer de l'ovaire, à ce moment-là, je peux être amenée à vous enlever l'ovaire. Bon, et je lui avais répondu, écoutez, si vraiment ma vie est en danger, je vous autorise à enlever un ovaire. Et je me rappelle lui avoir dit, c'est la dernière extrémité, c'est vraiment en cas de danger de mort. Il m'avait dit d'accord, puis il m'avait dit, je pars en vacances, ne vous inquiétez pas, je serai en forme. Après avoir vu le docteur, j'ai vu un autre toubib qui était censé m'anesthésier. Le consentement, ça commence en fait bien avant ces histoires d'opération. Je savais que j'étais extrêmement sensible aux produits anesthésiants, j'avais déjà été opérée auparavant, que je mettais des mois à évacuer ce produit. Donc ça se traduisait par nausées permanentes, envie de vomir, pas faim. Et je lui avais dit, mais est-ce qu'il ne serait pas possible d'être opérée en péridurale? Alors il faut vous dire que je traversais une période de ma vie professionnellement difficile. Il y avait un licenciement collectif en train dans l'association dans laquelle je travaillais. C'était pas le moment pour moi de m'absenter. Donc je m'en suis ouvert à ce toubib en lui disant que j'étais anxieuse, que je souhaitais avoir une anesthésie la plus légère possible, et pourquoi pas une péridurale, c'était une question. Et il m'a répondu, écoutez, non, je ne vous laisse pas le choix. La seule chose que vous avez à faire, c'est arrêter de fumer immédiatement. Parce que ça ne va pas avec les produits anesthésiants. Si vous n'êtes pas contente, allez vous faire opérer ailleurs. Bon, je suis partie très très en colère. J'ai failli abandonner cette opération, et puis je regardais mon ventre avec cette énormité là qui me poussait. Je me dis, bon, c'est pas lui qui va t'opérer de toute façon, fais confiance au chirurgien, tout le monde t'en a dit du bien. Un mois plus tard, je suis donc allée me faire opérer. Alors à partir de là, je n'ai absolument plus aucune notion du temps. Je vais me réveiller, c'est sûr, le jour même, à quelle heure, je suis incapable de le dire. Ma mère est dans ma chambre. Et tout de suite, je comprends que ça a dérapé. Je comprends que je suis sous morphine, à mon état, je ne peux pas ouvrir les yeux. J'ai mal. J'ai deux énormes tuyaux qui sortent de mon ventre avec des bouteilles pleines d'un liquide jaune de chaque côté du lit. J'ai un énorme pansement autour du ventre. Et je dis à ma mère, mais maman, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, je ne sais pas. À un moment, le chirurgien rentre dans la chambre avec une infirmière, demande à ma mère de sortir. Et là, il se plante au bout de mon lit. Il est habillé tout en blanc, une blouse blanche. Je ne peux pas le regarder parce qu'avec la morphine, c'est, je ferme les yeux, je l'entreaperçois comme ça pour pouvoir réussir à fixer un peu qui me parle. Tous ces gens ne se présentent pas. Hein. Et alors il me dit, oui, mademoiselle Gendre, c'est moi. Donc voilà, je vous ai enlevé l'utérus. Alors là, c'est un choc, mais je ne peux même pas croire que c'est vrai. Je m'attendais, dans le pire des cas, à ce qu'ils me disent « Vous aviez un cancer de l'ovaire et j'ai dû vous l'enlever. » Je lui dis « C'est une plaisanterie. » Il me dit « Non, 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 je ne plaisante pas, je vous ai enlevé l'utérus. » Je n'avais pas d'enfant. J'avais 37 ans. Je lui fais répéter une troisième fois. Je lui dis « Mais c'est pas possible, vous n'avez pas pu faire une chose pareille. » Et là, il me répond « Si, si, je vous ai enlevé l'utérus, mais c'est pas grave. » Là, je suis passée de cette espèce de d'effarement à la colère. Ça a été direct. J'étais très froide et je lui ai dit « Ce n'est pas grave. Eh bien, je vais vous couper la bite. » Là, il s'est mis en colère lui-même. Il est parti. L'infirmière avec qui il était rentré est revenue. Moi, j'ai éclaté en sanglots. Il me l'envoyait. C'était une femme qui, elle-même, avait subi une hystérectomie, hein, donc ablation complète de l'utérus, et qui venait pour m'expliquer à quel point ce n'était pas grave. Que rien n'était changé, que tout était comme avant, que j'allais m'en remettre. Et en fait, tous les jours qui vont suivre vont être de cet acabit. J'ai demandé à voir une psychologue. On me dit que non, j'en ai pas besoin. Mais que de toute façon, j'ai qu'à prendre un peu de l'exomil et ça ira mieux. J'ai les dents qui claquent, non-stop. Mais ça, c'est le choc psychologique, quoi. Tant plus qu'on ne m'a toujours pas dit pourquoi est-ce qu'on m'a enlevé l'utérus. Toujours pas. La sensibilité des gens n'en aucune façon respecté. Un matin, un homme inconnu avec une blouse blanche arrive. Il ne dit pas bonjour, il arrive, puis il me soulève directement la chemise de nuit. Peu importe qui est mon sexe à côté de cette immense cicatrice. Et je lui dis, monsieur, on a été présenté? Et il me dit, ah oui, je suis le docteur, je m'ai oublié son nom. Pourquoi ce bonhomme vient voir ? Je ne sais pas. Il se trouve que le 9, donc j'ai été opéré le 7, le 9, il voulait faire des travaux à l'étage où mon lit était. Donc le 9, on m'a changé d'étage. Vous savez où ils m'ont mis ? À la maternité. Le lendemain matin, ce docteur va revenir. Et il dit, voilà, je voulais vous dire, j'ai peut-être été un peu maladroit. Quand je disais que ce n'était pas grave, je ne voulais pas dire que l'hystérectomie, ça n'était pas grave en soi. Je voulais dire que vous n'avez rien de grave médicalement. Vous aviez un fibrome. Un fibrome, ce n'est pas un cancer, ce n'est pas très grave. Et qu'à cause du fibrome, je ne pourrais de toute façon pas porter d'enfant. Et qu'il ne m'avait pas demandé mon avis, parce qu'une deuxième année, ça aurait voulu dire me réveiller pour ensuite me rendormir, et qu'une deuxième anesthésie pourrait être dangereuse. Et que donc le mieux était de l'enlever, et de l'enlever complètement. Il m'avait dit, c'est toujours délicat de prendre ce type de décision dans l'urgence. Habituellement, je préfère laisser mariner mes patientes. Je le cite, mais j'aurais préféré qu'il me laisse mariner et que je puisse prendre la décision. Si c'est ce qui devait effectivement arriver, mais enfin, de toute façon, même si on n'avait pas réussi à me soigner, j'aurais de toute façon choisi une hystérectomie partielle. Pas de consentement. Longtemps après, j'ai obtenu mon dossier médical, je l'ai montré au gynécologue qui me suivait à ce moment-là, et il m'a dit, ça aurait été difficile, mais si vraiment vous aviez voulu un enfant, on aurait de toute façon essayé. D'autant si vous voulez que par la suite, je me suis tout de même renseignée sur ce fibrome. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et il y a bien d'autres moyens d'essayer de soigner et de résorber un fibrome que l'hystérectomie. Il y a des moyens médicamenteux, et puis surtout, c'est tout à fait bénin. J'ai essayé 3 fois de parler de sexualité. 3 fois se sont dit... Lui m'a répondu, je le cite. « Oh, mais vous savez, de toute façon, les femmes ne jouissent pas avec leur corps. Elles jouissent avec leur intellect. » Je leur dis, mais vous savez, pour une femme, le col de l'utérus, au fond du vagin, c'est un endroit qui est extrêmement sensible. Quand on jouit, il se contracte, il a des contractions. Comment vous pouvez dire que le corps n'a rien à voir avec la sexualité ? Et je me suis dit, ce serait un homme qui aurait eu, imaginez, je ne sais pas moi, un kyste bénin sur une testicule. Vous pensez vraiment que les mêmes, sans demander l'avis de cette personne, lui couperaient un organe sexuel ? Lui enlèveraient la prostate ? Lui enlèveraient une testicule ? Moi, je ne crois pas. Alors évidemment, j'ai perdu mon emploi, hein. Autant vous dire qu'en septembre, j'étais toujours en arrêt maladie, en octobre aussi. Je me trouvais au chômage, en dépression. Donc, je lui ai écrit au ce docteur, de ce chirurgien, pour le remercier de tous ses bienfaits, pour lui dire dans quel état j'étais. Il ne m'a pas répondu. C'est son assurance qui m'a répondu. Qui me dit que le docteur saurait en aucune façon être tenu responsable de cette hystérectomie, mais que c'est la personne qui m'avait fait l'échographie qui s'était trompée et qui est donc responsable. Et puis ensuite, alors des trucs qui me préparent déjà, si jamais j'avais la velléité de faire un procès, de voir à quoi je vais être confrontée. Et en fait, ce qui m'en a dissuadée, c'est de me dire à quoi sert le procès ? C'est pas un procès qui va me rendre mon utérus ? C'est pas un procès qui va faire que je serai mère un jour ? Moi, ce que je voulais, c'est qu'il arrête, tout simplement, de pratiquer. Or, la justice ne peut pas empêcher vraiment un médecin de pratiquer. C'est le conseil de l'ordre des médecins qui peut faire ça. Alors je me suis dit, ben peut-être qu'il faut que j'aille voir le conseil de l'ordre des médecins. Ouais, il y siège. Alors je me suis dit, Cécile, tu n'as pas l'énergie nécessaire pour pouvoir mener un combat qui est un faux combat, c'est-à-dire contre une boîte d'assurance pour des histoires d'argent. Je pense qu'au fond de moi, j'aurais aimé simplement qu'il s'excuse.
Vous avez vécu les années d'après sans cet utérus ?
Il y a toute la première partie où déjà il s'agit d'être capable de se regarder dans une glace avec une cicatrice qui va d'une hanche à l'autre en se disant qu'on s'aime quand même comme ça. d'accepter le fait que on a décidé à votre place que vous ne serez jamais mère. On a décidé à votre place que vous n'aimeriez plus votre ventre, votre corps, votre sexe. Donc vous êtes seule. Je me suis séparée de l'homme avec qui j'étais à cette époque. Je ne supporte absolument plus même qu'on me touche. J'ai été très longue à réussir à toucher mon propre ventre. Comme toutes les personnes qui ont subi des agressions, quelle qu'en soit la nature, il y a très bizarrement vraiment une culpabilité qui se développe, et tous les si, et si j'avais fait si, et si je m'étais écoutée, et de se dire qu'on n'a pas été capable de se protéger. Donc c'est aimer à nouveau son corps, c'est accepter le fait qu'on n'y est pas arrivé, et d'arriver à se regarder en face et dire « écoute, t'as fait de ton mieux ». Ça a changé ma vie. En tout, dans ma manière de me conduire, dans mon rapport avec les hommes, dans ma vision de la vie. J'ai fait 2 visites dans cette clinique. La première, j'y suis née. Et la seconde, on a décidé à ma place que moi, par contre, je n'accoucherai pas ni dans cette clinique ni ailleurs.
Culture, les pieds sur terre.
J'ai une grand-mère qui est venue en France dans les années 66-67 avec ma mère qui avait 11 ans à l'époque, qui rêvait de venir en France. Ma mère, vers l'âge de 20 ans, a rencontré mon père, mais au Portugal. Ils se sont mariés, elle est tombée enceinte, je suis née donc avec un bec de lièvre. Le médecin qui a accouché ma mère et l'infirmière ont beaucoup insisté auprès de mes parents pour qu'ils partent en France pour les opérations. Sachant que ma mère, elle, parlait français, puisqu'elle a fait quelques années de primaire en France. Donc du coup, ils sont venus en France. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de sécurité sociale et pas de papier. Donc ils ont dû payer plein pot les 2 premières opérations. Mon grand-père, ma grand-mère, ma mère et mon père travaillaient à 4 pour pouvoir rembourser tout ça. Les premières années, ça a été vraiment très très difficile. Pour mes parents, le médecin était toujours, avait toujours le dernier mot. On ne lui pose pas de questions. On arrive toujours une demi-heure en avance. On met des vêtements propres, voire neufs. C'est-à-dire que l'organisation était toujours faite où il fallait reprendre sa douche avant d'aller chez le médecin. Il faut savoir que comme j'ai été opérée par un chirurgien qui lui-même était dans le 16e, justement, porte d'Auteuil, il conseillait les cabinets de radiologie, etc., autour de son propre cabinet. Donc on allait toujours dans le 16e. Donc on arrivait toujours dans des immeubles absolument dingues, avec des cages d'ascenseur en fer forgé et la banquette en velours rouge, enfin... Ils habitaient dans des châteaux presque, pour nous, par rapport à ce qu'on avait. Parce que bon, moi j'ai grandi dans une pièce. C'était, voilà, leur salle d'attente était plus grande que notre logement. La première opération était pour tout d'abord refermer le palais, et ensuite ils ont recousu la lèvre. Et donc pour le nez, parce qu'il y avait un problème de cartilage du nez, ils nous avaient dit qu'il faudrait attendre jusqu'à l'âge adulte. À l'école, j'avais pas d'amis, portugaise avec un bec de lièvre, c'était le super combo pour pas avoir d'amis. Enfin, j'avais une amie en dehors de l'école, mais à l'école, elle me parlait pas trop tout le temps, parce que les autres allaient aussi se moquer d'elle, donc du coup, j'étais très isolée, on me parlait très peu. Et puis toujours cette promesse du « non mais t'inquiète pas, quand tu seras grande, tu seras opérée, tu seras entre guillemets présentable, jolie, tu pourras avoir des amis ». J'imaginais même pas un jour me marier et avoir des enfants. Alors ça, pour moi, c'était impossible. C'était visé beaucoup trop haut et demandé beaucoup trop, là. Et à l'âge de 18 ans, mon palais se réouvrait à nouveau. C'est-à-dire que si je mangeais une glace, j'avais le nez qui coulait, donc c'est toujours embêtant. On m'a conseillé un chirurgien qui m'explique que déjà, on va faire l'opération en 2 parties. Il m'a dit qu'il allait faire une greffe au niveau de la fente pour que ça tienne mieux, que ça ne se réouvre plus et que comme ça, je n'aurai plus jamais de problème. Je me suis réveillée d'opération avec un énorme pansement sur la tête. J'avais l'impression qu'il m'avait mis un turban. Je ne savais pas ce que c'était, si j'étais tombée de la table d'opération pendant l'opération ou que sais-je. Enfin, on s'imagine des trucs pas possibles. Et je ne pouvais pas parler, puisqu'il m'avait replacé la mâchoire. Donc ça consiste à mettre une barre de fer en haut, une barre de fer en bas. Et plein de petits fils de fer pour les attacher, pour pas qu'on puisse ouvrir la bouche. Et ça a été assez compliqué, mais j'ai quand même réussi à parler les dents serrées pour savoir ce que j'avais sur la tête. Le chirurgien m'annonce... Oui, on vous a fait une greffe. Oui, mais c'est quoi sur le crâne? On vous a enlevé un morceau d'os de votre crâne. Je n'avais pas du tout eu cette information avant. Ça m'a fait très peur. Il a percé, il a fait quoi? Voilà, toutes ces questions-là que je ne pouvais pas poser, puisque je ne pouvais pas beaucoup parler. Et donc j'avais, oui, 14 ou 16 agrafes au niveau du crâne. Et à ce côté, on est... On nous pique, on nous enlève des agrafes, on nous met des agrafes, on peut nous coudre, on peut nous découdre, on peut, enfin, on nous coupe, on nous perce. C'est des mots qu'on utilise pour le bricolage.
Donc en fait, la greffe, c'était une... on prend de votre propre os au crâne.
Oui, pour le remettre dans le palais. Je n'ai pas su avant. Et ensuite, j'ai eu aussi un deuxième souci, c'est que j'ai fait une gingivite à la suite de l'opération, en haut et en bas, réaction à la... au fil de fer. Et là, ils m'ont annoncé juste que j'avais une consultation chez le stomatologue qui était dans un autre hôpital, mais ils m'ont jamais dit comment ça allait se passer. Je suis arrivée, on m'a allongée et la stomatologue a regardé. Elle m'a dit « Je suis vraiment désolée ». Elle s'est levée et elle est partie dans un bureau à côté. Je sais qu'elle a passé un coup de fil. Je l'ai entendu crier très fort. Et ensuite, la stomatologue revient. Elle m'a dit « Voilà, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas refaire d'anesthésie. Il faut que je vous retire tous les fils en urgence et je vais vous le faire à vif. » Et ça, ça a été un vrai traumatisme. Je suis revenue dans ma chambre, j'ai appelé ma mère en riant. Je pense que j'ai dû avoir un petit décrochage dans le cerveau. En riant et en lui disant que je venais de connaître le top du top au niveau de la douleur et que je voulais en rester là et que je voulais dormir et plus me réveiller. C'était plus une sensation de que je ne vois rien, en fait, que je n'étais rien. C'était surtout ça, de pas pouvoir me défendre, de pas pouvoir me plaindre, de pas pouvoir râler, de pas pouvoir exprimer les choses, parce que je n'ai même pas osé dire au médecin « je suis pas d'accord, je suis pas contente, je veux pas avoir mal, je veux que vous fassiez quelque chose ». Et à la suite de cette opération, j'ai eu quelques soucis, j'arrivais plus à dormir, je mangeais pas, je dormais pas. J'avais pas l'air déprimée, juste je communiquais plus, en fait. Et après, je me suis mise à énormément dormir. Donc je dormais entre 16 et 18 heures par jour, et je parlais pas beaucoup. Ma mère a fini par s'inquiéter, qui m'a emmenée chez un homéopathe, qui m'a dit « mais je prends rien pour vous, en fait, une dépression, mademoiselle, hein, ça va pas du tout, ne voyez pas trop ce qu'il pouvait faire pour moi ». Ça m'a fait une décharge électrique. Je suis rentrée, j'ai fait attention à moins dormir, à mieux manger et à me dire que ça allait passer. Et c'est passé. Donc voilà, mais je n'ai jamais vraiment su ce qui s'était passé. Et pour mes parents, bon, ben, il faut pas râler, on a déjà la sécu et la mutuelle, on paye pas déjà, c'est énorme. Et puis je pense qu'ils n'osaient pas trop. Enfin, ma mère était un petit peu remontée, mais elle a pas trop osé aller dire quoi que ce soit au médecin, et mon père n'a pas osé poser vraiment des questions. Ils ressentent toujours une injustice, et par rapport à leur ce qu'ils ont vécu, il y a le côté injustice, c'est parce qu'on n'est pas français. Qu'on ne prenne pas le temps de nous dire les choses comme si ça servait à rien, comme si on ne méritait pas de le savoir, ou comme si on n'était pas capable de comprendre, en fait. Donc je pense qu'il y a un énorme amalgame dans ma famille depuis longtemps, c'est-à-dire que le médecin n'a pas expliqué parce que, ça se trouve, il est comme ça avec tout le monde, il prend pas la peine d'expliquer parce que ça le gave, parce qu'il estime que les gens sont pas capables de comprendre, point barre. Mes parents, eux, prenaient ça pour « c'est parce qu'on est portugais qu'on n'est pas assez bien ». On ne mérite pas d'en savoir plus. Pendant encore quelques années de devoir aller voir dentiste ou d'aller voir... J'étais en larmes avant, j'avais des crises d'angoisse et c'était très difficile. C'est un vrai traumatisme. Hein. J'ai mis des années aussi avant de réussir à réécouter de la musique classique. Puisque le dentiste et le chirurgien mettaient toujours de la musique classique pendant les consultations. Donc, je pouvais pas trop écouter Jean-Sébastien Bach. Avec les beaux tapis, avec le beau velours rouge dans la belle cage d'ascenseur.
Et vous avez appris à dire non, à vous affirmer, à poser des questions ?
À mon troisième enfant. Si je suis pas d'accord sur un vaccin, j'ose le dire au médecin, non, ce vaccin n'est pas obligatoire, je ne le ferai pas à mon enfant et j'ai pas de discussion. Donc voilà, mais maintenant j'ai plus la difficulté de me dire, ce médecin ne me convient pas, il m'a rien demandé, rien expliqué, je l'ai pas aimé, je change, tout simplement. Ça, la liberté de pouvoir changer de médecin, c'est assez récent. All the trees that we do not climb, bridges we cross in our minds, who are we fooling when we cry? When she says everything is fine, over her head clouds that look like mine, oh why can't she wish for brighter skies?
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, des actes médicaux sans consentement. Un reportage d'Inès Léraud réalisé par Annabelle Brouard. Enfin, de retour aux Pieds sur Terre. Demain, la suite de ce reportage sur le consentement médical du point de vue des soignants. L'attachée de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon. Nos stagiaires en ce moment, ce sont Anaïs Obaidi et Anaë Luong. Merci pour cette émission à Cécile, à Neouza, à toutes les personnes, patients ou soignants qui nous ont aidés à préparer cette émission, à Anne-Charlotte Husson et à son Tumblr « Je n'ai pas consenti ». Saluons l'arrivée par ailleurs dans un autre domaine, dans nos librairies et autres relais de la revue Le Crieur qui est éditée par nos partenaires de longue date de Mediapart. Ce sont des enquêtes sur les idées et la culture dirigées par l'excellent Joseph Confavreux. Voilà, j'espère que vous nous posterez des réactions, des témoignages, que vous nous donnerez votre point de vue sur cette émission et sur d'autres sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre. Vous pouvez également nous rejoindre sur les fameux réseaux sociaux. Voilà, en attendant de vous lire, je vous conseille de rester à l'écoute de notre chaîne. Il n'y a pas que les Pieds sur Terre.